Vous êtes sur RTL.
Alors. 11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
C'était Sofiane Aklouf, mesdames et messieurs.
Bravo,
Sofiane, bravo.
Bravo. Bravo.
Prochain point sur l'info donc tout à l'heure, d'ici moins d'une heure. Oui, parce que, évidemment, nous sommes une école de radio ici. Non mais c'est vrai, il a frappé à la bonne porte. Vous savez que le week-end on dispense des cours, etc. D'ailleurs à ce propos, je voudrais, au nom de cette école...
Non.
Je voudrais nous excuser, oui. Pas que moi, oui. Auprès des auditeurs d'RTL. Je voudrais nous excuser pour ce qu'ils ont entendu il y a quelques... Elle vous régale, le retour de N'oubliez pas, les Marioles sont là.
Et
jusqu'à midi et demi. Je me le demande encore.
Oui.
Mais en tout cas, on est excusés, c'est déjà ça. Ça va les amis, vous avez passé un bon week-end?
Pardon.
On s'est excusé, je sais pas si on l'est, mais...
Le bonheur est dans le pré aujourd'hui, on part dans le Gers, au cœur du Sud-Ouest et de l'Occitanie. Jean-Sébastien Petit-Demange, Louise Petit-Renaud, vous l'avez compris, je suis avec les Stone et Chardin du pauvre. Jean-Sébastien, un mot sur le terroir du jour. Nous voici dans le Gers, un département qui porte le nom d'une rivière.
Absolument, et qui est un affluent de la Garonne. Le Gers qui est un des départements les plus ruraux de France. Il y a des canards, il y a des oies, qui sont bien sûr les grandes stars du coin, et même du coin-coin. C'est pas le mipède.
Je vous assure que même moi, j'aurais pas osé.
Doivent se sentir bien dans cette région de cocagne. Le Gers est né à la création des départements, comme les autres, en 1790. C'était le cœur de la Gascogne. Immense province au Moyen-Âge, qui fut même un temps un état indépendant. Le Gers qui offre des paysages tout en rondeur, en tranquillité, sans être jamais monotone. Et au film des vallons et des collines, il n'y a pas de grande ville, il y a juste de belles bourgades de charme. Même Auch, la capitale, se parcourt comme un gros village. Un peu au nord, vous avez la Lomagne qui regorge de patrimoine, de Mauvezin à Fleurance, ou encore Lectoure qui fut au cœur de l'âge d'or du pastel à la Renaissance, cette plante qui donnait le fameux bleu de Lectoure. Et puis lorsqu'on voit Condon apparaître, on sait que l'on est arrivé en terre d'Armagnac, de Madiran et de Côte de Saint-Mont. Au sud du département, on se retrouve dans les coteaux du Gers, le piémont pyrénéen s'annonce. La montagne joue à cache-cache avec la brume et les nuages. On peut passer de Marcillac, dont le célébrissime festival de jazz a débuté ce samedi, et il va se poursuivre jusqu'au 4 août. Et puis de l'autre côté du département, il y a Saint-Mathan, connu pour son marché au canard gras, qui est rien moins que la Mecque du foie gras. Oui, j'ai oublié de vous dire... Mange bien. Et on mange bien bien.
Bah vous allez, voir, on va vous le prouver. Louise, est-ce que je me trompe si j'affirme que le Gers, c'est le pays du bon gras?
C'est le pays du gras, c'est une gastronomie qui est exceptionnelle par sa qualité, sa quantité, comme vient de le dire Jean-Sébastien. Il y a des produits, mais une heure d'émission n'est pas possible pour le Gers.
C'est vrai qu'il y a une qualité de produit absolument inimitable dans le
coin. Mais oui, c'est vraiment, on le dit, ils le disent, c'est le pays du gras et ils n'ont pas honte de le dire, bien au contraire, ils en sont fiers.
Après, je ne sais pas si on est actuellement même au cœur de la meilleure des saisons pour la cuisine du Gers.
Alors, comme on le dit régulièrement dans cette émission...
Il pleut, donc.
Non mais surtout le gras c'est la vie.
Rappelons-le, c'est important.
Donc il n'y a pas de saison pour ça. Et alors figurez-vous qu'à l'automne, là vous avez raison, quand le froid arrive, il y a l'ouverture des traditionnels marchés au gras. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui arrivent avec des kilos de foie gras, des carcasses, des volailles entières. C'est un vrai festival, c'est traditionnel, c'est religieux chez eux, le gras, dans le Gers. Ils ne font pas les choses à moitié. C'est vraiment... Alors, il y a le foie gras, évidemment. Hein. On pense à ça qui est quand même l'emblème de la gastronomie française. Mais alors, ce matin, surtout, restez avec nous parce qu'on va parler confit, magret, poulet, melon, ail blanc, porc noir gascon. Bref, on va se régaler.
Et restez avec nous parce que dans la playlist d'RTL vous régale, il y aura Benjamin Biolay et Adé. Ça, c'est pour dans quelques instants. La très bonne idée de ce matin, c'est d'avoir ressorti ça aussi. Edwin Collins avec A Girl Like You et puis Francis Cabrel.
L'aube revenant.
Une des plus belles voix de l'été aussi au menu. Courage to Change, Sia et ajoutez-y Fauzia et John Legend. Voilà l'esquisse d'RTL. Vous régale au pays de la régalade. Nous sommes dans le Gers. Nous sommes en direct et c'est jusqu'à midi et demi.
11h, 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zecler.
11h, 12h30,
RTL vous régale.
Ce matin, RTL vous régale, comme tous les jours de l'été, 11h, 12h30, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud, elle est heureuse, elle est épanouie, elle est élevée en plein air. C'est une volaille.
Ouais.
Une volaille du Gers.
Vous avez remarqué que je n'ai pas encore parlé de fromage.
Ça va venir, mais je vous fais confiance.
Oh,
si on trouvera bien le moment.
Mais non, je vais vous parler de la volaille du Gers, parce qu'elle est heureuse, elle est épanouie, parce qu'elle est élevée en plein air. Et vous savez à quel point c'est important pour avoir un produit de qualité. Elle a une durée d'élevage qui est supérieure aux élevages standards. 81 jours pour les poulets, jusqu'à 150 pour les chapons. Et c'est vraiment l'existence de l'élevage des volailles est traditionnelle dans le Gers. Ça remonte aux fermes. Elle a eu, cette volaille, une IGP en 96, donc on répète gage de qualité, on protège le savoir-faire, on fait attention à comment elles sont nourries. Donc dans les Landes et dans le Gers, c'est le maïs, évidemment. Donc le Gers, c'est un des plus gros départements producteurs de maïs. Et puis, je voulais faire un petit point, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais les différences de volailles.
Parce que quand on dit volaille du Gers,
ça comprend
plein de choses.
Voilà. Donc vous avez les poulets jaunes, donc qui sont typiques et fondants, les poulets noirs avec un goût qui est un peu plus noisette, les poulets blancs le plus connu, on va dire. Vous avez la dinde, qui a une chair moelleuse, la pintade, qui a un petit goût un peu plus prononcé, et puis le chapon. Le chapon qui est un mâle castré de poule ou de pintade. Donc c'est plutôt, on va dire, le chapon qu'on déguste pour les fêtes de fin d'année.
Carrément. On dit souvent que le gras, c'est la vie. Dans cette émission, on rajoute régulièrement que la vie, c'est aussi...
L'ail.
Bien sûr.
Enfin, en tout cas, pour moi. Moi, j'adore ça. Donc là-bas, dans le Gers, il y a l'ail blanc de Lomagne. C'est un ail qui est de, si vous le trouvez sur les marchés, qui est de grosse taille. C'est vraiment sa caractéristique.
Il est un peu violet aussi, non ?
Il est charnu. Non, il est très blanc, mais il peut avoir des lamelles violettes, justement.
C'est ce que je dis.
Et donc, non, il est blanc.
Oui, mais avec des stries un peu violettes.
Voilà, mais c'est plus blanc que violet.
D'accord, merci.
Et surtout, on est en pleine saison parce que c'est de juillet à décembre. Donc vraiment, allez-y, hein, parce qu'on va souvent rappeler les saisons, c'est important de les respecter. Alors, il est vendu, vous savez, séché en tresse. Ça, c'est un vrai savoir-faire français. Enfin, on repart tous avec une tresse d'ail de nos vacances, non ?
Tous !
Bah oui, enfin en tout cas...
Même en boucle d'oreille, si vous voulez.
Pendentif,
boucle d'oreille.
Non mais c'est pas vraiment, voilà, l'ail blanc de Lomagne, c'est la fierté du Gers, il est connu, enfin cette taille est connue, c'est vrai en plus. Oui, l'ail est connu là-bas.
D'accord. Voilà. Est-ce qu'il est aussi connu que le melon ?
Mais alors oui, vous savez très bien que c'est important de parler du melon.
Capital en été.
Vous vous souvenez ce qui s'est passé la dernière fois ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Le melon charentais ne vient pas de Charente.
Ne vient pas de Charente.
Le melon charentais est une variété.
Mais le melon du Gers ?
Et alors là, on est à Lectoure. Ils cultivent le melon. Il y a 48 producteurs qui produisent ce melon. Ça a été développé dans les années 50 par un instituteur agricole qui a constaté que le climat et le sol argilo-calcaire convenaient particulièrement à la culture et à la production du melon.
Ce qui est terrible, c'est que c'est un melon charentais, en fait.
C'est un melon charentais. Donc, c'est la variété charentais. Donc, il se déguste. Il est sucré. Il a des saveurs parfumées. Et... Oh, pareil, je me permets, hein, je rappelle la saison, c'est juillet-septembre. Alors en ce moment, malheureusement, les saisons, c'est un peu...
Hein, non, mais on y est là.
Mais on y est, donc surtout, respectons ça et puis arrêtons de manger du melon qui vient de l'autre bout du monde. On a tout ce qu'il faut en France.
Parce que, si vous voulez, je vous regarderai sur la confrérie royale de la gerbe d'ail et du chabreau lomagnol.
C'est-à-dire, vous êtes maître ?
La confrérie de l'ail de Lomagne.
D'accord, dont vous êtes, vous êtes membre éminent ?
Non, mais je les connais aussi.
Quelle confrérie ne vous connaît pas ? C'est un peu la question.
Nous irons nous faire introniser.
Il est 11h15, vous écoutez RTL, c'est RTL vous régale, mais ça je pense que vous l'aviez compris. Benjamin Biolay, il y a des parcs fermés, c'est le troisième extrait de Grand Prix, l'album RTL de l'année 2020, qui est désormais disque de platine. Benjamin Biolay en duo avec Adé, c'est la chanteuse du groupe Thérapie Taxi, vous savez. Extrait de la compilation également, les artistes RTL 2021, 40 tubes réunis sur un double CD, la bande-son idéale de votre été. Au cœur d'RTL vous régale, dans le Gers, soyez les bienvenus, on est ensemble et en direct jusqu'à 12h30.
Fermé, tant pis je vais flâner vers Notre-Dame brûlée.
Tant pis, je reste sur le macadam. Pavé, c'est presque rien, mais j'en fais tout un drame.
Fermé, Benjamin Biolay et AD sur RTL. Dans un instant, la suite d'RTL vous régale.
11h, 12h30. RTL vous régale. RTL. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et avec mes camarades, nous vous emmenons dans le Gers. S'il y a une capitale de la régalade, c'est bien celle-là. C'est parti pour le petit tour de Jean-Sébastien qui nous emmène
tout au nord. À Condom. Département, à Condom, absolument. On est aux confins du Lot-et-Garonne. Et du Gers, et quand on arrive là-bas, la route aussi, sans relâche, entre les crêtes où se perchent des bastides historiques et la vallée de l'Adour qui annonce les Landes. Condom, c'est une petite ville d'un peu moins de 7000 habitants. Il faut découvrir une cathédrale, Saint-Pierre, du début du XVIe. Exemple magnifique de l'architecture gothique finissante, avec un côté très forteresse dû à ses énormes contreforts. C'est devant la cathédrale qu'on découvre l'immense sculpture des quatre mousquetaires. Oui, je vous le dis, ils étaient quatre en vrai. Des statues en bronze de 5 tonnes chacune.
J'ai suivi jusqu'à 4, moi quand même. Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan.
Oui, c'est ça.
Et
ben, c'est tout.
Il y en a 4.
D'accord,
il y en a 4. Il va falloir qu'on songe à changer l'animation.
Bienvenue, c'est lundi.
Non,
on dit les trois mousquetaires d'habitude.
Voilà, c'est ça
l'histoire. D'accord, très bien.
Voilà. Les statues de 5 tonnes.
Quel rapport entre les mousquetaires et Condom ?
32 de haut. Il n'y en a pas. D'abord, comme il est indiqué dans un Le saviez-vous du guide du Routard Gascogne, les mousquetaires furent les premiers militaires qui ont été dotés de mousquets. mousquetaire.
Qui est ?
Par Louis XIII en 1622.
Mousquet-fusil.
Le mousquet qui était plus pratique que l'arquebuse, qui était beaucoup trop lourde, il fallait la poser sur un trépied et tout, enfin il fallait prendre un temps, alors que le mousquet était beaucoup plus pratique et facile d'utilisation. Ce mousquet a équipé Charles de Batz-Castelmort, comte d'Artagnan. S'il n'est pas un enfant de Condon, il est un enfant de Lupiac, qui est un village à un jet de pierre de Condon. Donc, on a rendu hommage aux trois mousquetaires qui étaient quatre par cette statue absolument immense. Dans les environs, il y a la Racingle, qui fait partie des passages obligés. C'est un village pittoresque qui est totalement fortifié à l'image de Carcassonne. Comparaison qui n'est pas usurpée, hein, puisque les défenses furent tellement bien conçues que la cité n'eut jamais besoin d'armée pour se défendre. Et puis au fil de la route, on tombe sur un certain nombre de bastides. C'est là qu'elles sont nées au Moyen-Âge. Ces cités neuves qui devaient parer à l'augmentation de la population du XIIIe, aux problèmes d'insécurité également, et puis à la guerre de 100 ans, parce que Anglais et Français construisaient des bastides pour se faire face et pour se défier. Le plan est toujours le même, un quadrillage rectangulaire avec une place centrale. Ces villes nouvelles qui n'ont jamais été l'apanage des années 50, 60, 70, hein, en France, c'était de bien bien avant. Et Montréal du Gers est une de ces bastides datant de 1255. C'est la capitale de la Thénarèse. La Thénarèse, c'est une voie antique de migration néolithique, puis de charrois médiévaux dont le nom se serait effacé s'il n'avait repris force pour désigner la zone centrale de l'aire de production du meilleur Armagnac qui soit.
Wow. Fantastique. Vous voulez que je vous présente le D'Artagnan du foie gras ?
Grand plaisir.
En garde, Vincent Casassus.
Bonjour.
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 Bienvenue sur RTL, comment ça va ce matin ?
Ça va très bien, merci.
Chef de l'hôtel de France à Auch, je disais le D'Artagnan du foie gras, parce que vous, le foie gras...
Et donc vous dites Auch.
C'est quoi ?
Auch.
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 J'ai dit quoi ?
Auch.
Auch.
Oui, mais enfin c'est comme on va pas non
plus. Je rappelle que j'ai des origines.
On va pas s'attarder là-dessus non plus.
Je rappelle que j'ai des origines belges.
C'est beaucoup plus intéressant de parler foie gras, mais
voilà.
Avec le canard.
Et voilà, et donc je disais, le foie gras que vous préparez de mille et une façons.
Oui. Oui, oui, on peut tout faire avec le foie gras, oui.
Et on peut même le faire avec un petit verre de Portos.
Oui, voilà, oui. Oui. Donc en fait, souvent, on dit trois mousquetaires et D'Artagnan.
Voilà, c'est pour ça que j'en parle.
Trois mousquetaires et on ajoute D'Artagnan. J'ai vu qu'il y avait une petite difficulté là.
Non, mais je voulais vous arriviez sur les préparations de foie gras, justement, les accords que vous préparez, que vous nous réservez pour cet été. Je sais que vous préparez, par exemple, un carpaccio de foie gras.
Oui, ouais, ça c'est un truc un petit peu original qu'on fait, donc avec du foie gras cru qu'on taille très fin et qu'on fait mariner avec un peu de vinaigre balsamique et de l'huile de noix, et on le sert comme ça sur une salade ou même à partager en entrée, ça marche bien.
Oh,
c'est
bah je vous fais confiance. L'association foie gras langoustine qui est géniale aussi.
Oui, c'est une recette qu'on croyait créer pour la nouvelle carte là de post-confinement, et on s'est rendu compte en fait en parlant que c'était une grande spécialité de mon prédécesseur Monsieur Daguin, donc ça remet un peu d'humilité puisqu'en fait on n'a rien inventé du tout. Et voilà, mais ceci dit ça marche très bien aussi.
Foie gras poché pour le coup avec de la langoustine, oui, avec un bouillon, voilà, de canard, gingembre, citronnelle, sauce soja, un peu asiatique.
Et vous avez raison de le préciser, Vincent, vous êtes dans la maison d'André Daguin où il a inventé le magret de canard. Parce que avant André Daguin, on ne cuisinait pas le magret dans les restaurants.
Alors, on cuisinait le magret, mais on le faisait confire. On le cuisinait pas comme on le mange aujourd'hui. Ouais.
Vous le faites à l'ancienne ?
Alors nous, on le refait confire, effectivement, parce qu'on a la chance d'avoir des nouvelles moyennes cuissons maintenant, avec la basse température. Parce qu'avant, c'était quand même pas très très bon, le magret confit, c'était assez sec. Oui. Et nous, maintenant, on peut le confire tout doucement avec des fours modernes, et du coup, c'est beaucoup plus sympa et plus intéressant.
Mmh. On parle de foie gras, on parle de canard, évidemment. Il n'y a pas que ça, vous faites du bœuf. J'aime bien parce que vous travaillez avec des gens qui s'appellent la vache de mon voisin.
Oui. C'est les agriculteurs gersois, les producteurs de bœuf, les éleveurs de bœuf gersois qui ont créé la vache de mon voisin. Il y a plein de labels comme ça qui sont faits au niveau du Gers avec des producteurs qui sont regroupés pour essayer de tirer la qualité vers le haut. Et nous, on en profite tous les jours.
Vincent, pour qu'on comprenne bien, au menu ce midi, si on déjeune chez vous, il y a quoi ?
Alors, au menu ce midi, il y a de la dinde. Alors, aujourd'hui, c'est là, on a la brasserie, le 9e, qui est ouverte. Le restaurant gastronomique est fermé. Donc, le menu à midi du 9e, on a de la dinde fermière bio de mon copain Alex, qui est un producteur de légumes et qui fait quelques dindes fermières au milieu de ses champs. Donc, voilà ce qu'on va pouvoir manger à midi. C'est des super
avec
produits.
Avec quoi?
Ben là, on est en plein dans le local et dans la saison, puisqu'on a fait, ben, justement, avec les légumes d'Alex aussi, on a fait une ce qu'on appelle un petit sauté niçois, c'est un peu pompeux, c'est une ratatouille juste sautée à la minute, donc aubergine, poivron rouge, courgette, oignon nouveau, qu'on fait juste sauter, et ça on le sert avec la dinde.
Moi j'adore l'idée que les dindes viennent de chez quelqu'un qui ne produit pas nécessairement de la dinde, qui fait des légumes finalement.
C'est un producteur de légumes, et comme il avait de la place et comme il s'ennuyait, il s'est mis à faire des dindes, il s'est mis à faire de la dinde fermière. En plus, c'est assez compliqué à faire, la dinde. C'est de la dinde blanche, donc c'est une dinde un peu particulière. Et il se trouve qu'il l'a fait très bien, et ça fait des bêtes magnifiques.
Je m'en voudrais de vous quitter sans évoquer quelques desserts, parce que vous travaillez en famille. Votre frère est meilleur ouvrier de France, il est maître d'hôtel. Et lui fait revenir des abricots avec de l'armagnac.
Oh là là.
Oui, avec de la blanche d'Armagnac. Alors c'est l'alcool d'Armagnac, il n'est pas encore passé en fût. Et voilà. Et oui, on fait revenir en salle. Ça, on aime bien faire un peu de spectacle. Donc c'est juste avec un peu de beurre, un peu de sucre.
Pâtissier ?
Non, on est trois frères en fait. Donc il y a le pâtissier qui prépare les abricots et il y a le meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, qui les fait flamber en salle. C'est un travail d'équipe.
Ah ben, vous savez quoi, si on décroche pas assez de médailles d'or, on vous enverra au JO la prochaine fois. Parce que franchement, voilà une vraie équipe de France.
C'est extrêmement important ce que vous venez de dire, parce que c'est un vrai métier. C'est un vrai beau métier, le service en salle. Et le fait de le mettre en valeur avec des flambages, avec des découpes sur guéridon, ça remet en valeur. Et en avant ces métiers de service qui sont ô combien compliqués à trouver depuis manifestement la fin du confinement.
Mille merci à vous, Vincent Cazassus. Je rappelle que vous êtes le chef de l'hôtel de France à Auch.
Oui.
Merci beaucoup. On vous salue, on vous souhaite un très bel été en tout cas. Bon service. Dans un instant, les petits challenges de Louise Petit-Renaud, vous êtes prête ?
Bah oui, toujours.
Julien est à Marseille.
Oui.
Il a des chips qui ne sont plus croustillantes. L'astuce de Louise dans un instant.
11h-12h30. RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. 11h-12h30. RTL vous régale.
Vous savez que depuis le début de l'été, dans RTL vous régale, Louise Petit-Renaud se lance dans des défis improbables et elle relève les challenges. Julien est à Marseille, il a des chips qui sont plus croustillantes, on a tous connu le problème. Est-ce qu'il y a une astuce pour redonner du croustillant aux chips ?
Ben alors c'est vrai que les chips, les céréales sont attirées par l'humidité et c'est vrai que c'est pas très agréable quand c'est un petit peu mou. Alors pour redonner le côté croustillant, il faut, donc ça marche aussi pour les céréales, il suffit de passer 1 ou 2 minutes au four vos chips ou vos céréales.
On n'y pense pas.
Ben non, et vous allez voir, déjà c'est rapide, et vous allez voir que tout de suite, elles vont retrouver leur croustillant.
Eh ben bonne chance Julien. Karine est à Orléans. Comment faire quand je prépare un cake aux fruits pour pas que les fruits soient au fond du gâteau ?
Oui.
Oui, mais c'est un problème de base.
Oui, vous êtes, oui, vous aussi.
Moi je pâtisse très mal. Je suis une quiche.
D'accord. Eh bien, écoutez-moi. Il faut rouler vos fruits dans de la farine. Et c'est une sorte de réaction chimique qui va
faire. Pour que ça accroche.
Oui, qui vont se balader dans votre gâteau, dans votre cake, et ce ne sera pas au fond.
Et ça se répartit de manière régulière,
exactement.
Du coup.
Exactement.
D'accord. Nicolas est à Brest. Il a un problème de râpe à fromage. Vous êtes prête ? Ce témoignage. Ma râpe à fromage accroche. J'ai du mal à râper mes fromages à pâte dure.
Non, mais c'est vrai que.
À l'aide, Louise.
Oui, mais c'est vrai que ça arrive.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Quand vous avez des fromages à pâte dure, s'il a un comté, etc. S'il est un peu sec, on a du mal. Et ben, ce que vous allez faire, Nicolas, c'est que vous allez passer sur votre râpe une pomme de terre. C'est-à-dire que l'amidon de la pomme de terre va un peu, on va dire, huiler votre râpe. Et vous allez voir qu'après, vous allez pouvoir râper votre fromage, mais alors avec une aisance totale.
Vous réhydratez la râpe
on
à fromage. C'est merveilleux. Pour relancer des challenges à Louise, n'hésitez pas. Vous envoyez par SMS le mot régal, suivi de votre message. Au 64 900, vous gagnez des guides du routard aux éditions Hachette et des montres RTL. À chaque proposition, dans un instant, l'ambassadeur d'RTL vous régale. On parle Armagnac. Ce sera juste après Edwin Collins. Quand on l'a vu arriver en 95, on s'est dit, tiens, c'est un nouveau titre de David Bowie. C'est vrai qu'il y avait un truc. Hein. Edwin Collins sur RTL. A Girl Like You. I've never known a girl like you. Girl Like You, Edwyn Collins sur RTL.
Jean-Michel Zeka, jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
D'alcool.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Bienvenue à l'ambassade de la régalade, comme tous les jours, 11h, 12h30. Et l'ambassadeur aujourd'hui s'appelle Vincent Barthes. Il est représentant de la maison Jean Cavé, qui fait de l'armagnac depuis toujours. Bonjour Vincent Barthes.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Je dis depuis toujours parce que l'histoire de cette maison Jean Cavé, elle remonte quand même à 1883.
1883, effectivement. Il y a eu 4 générations de la famille Cavé, puis 2 générations de plus. Ça fait 6 générations qu'on s'occupe d'Armagnac dans le petit village de Lannepac.
C'est dire si vous savez de quoi vous parlez. On est au cœur de l'appellation de l'Armagnac. Alors, je voudrais d'abord qu'on fasse... La question va vous paraître peut-être saugrenue, mais on peut rappeler de quoi il s'agit. C'est quoi de l'Armagnac exactement?
Alors, l'Armagnac, c'est régi par une appellation d'origine contrôlée. C'est du raisin, initialement, principalement 4 cépages qui sont vinifiés puis distillés, c'est-à-dire on va extraire l'alcool contenu dans le raisin puis dans le vin pour le faire vieillir dans des fûts de chêne français. Mmh. Et c'est au temps passé dans ces fûts de chêne que l'Armagnac acquiert tous ses arômes et couleurs.
Voilà, on parle d'eau de vie en fait.
C'est de l'eau de vie de raisin, exactement.
Voilà, qui sont conservés dans des fûts de chêne et qui sont, et j'adore cette formule, soumises à l'épreuve du temps.
C'est ça. On a un rapport au temps particulier dans le monde de l'Armagnac parce qu'aujourd'hui, on fait du commerce avec des choses qui ont été distillées par les générations précédentes, 2, 3, 4, voire 5 générations chez nous. Et ce qu'on fait aujourd'hui est destiné vraiment aux générations prochaines. Donc on a un rapport au temps qui est particulier.
Mais c'est génial parce que ça, quand vous faites de l'Armagnac, c'est une vraie transmission. C'est pour les générations à venir.
Tout à fait.
C'est un
tout
devoir.
À fait. C'est un devoir. Je vous appelle, là, je suis dans nos chais et on a quelque chose comme 130 millésimes présents. Donc il y a quasiment toute l'histoire de tout ce qui s'est fait chez nous. Dans nos chais ici.
Et je vous interromps, quel est le plus ancien? Parce que vous êtes devant, là, on trouve des Armagnacs de quelle année?
Je suis devant, on est devant un Armagnac de 1888.
Rentrez pas trop loin dans la cave non plus, Vincent, parce que j'ai l'impression qu'on va vous perdre.
D'accord.
Vous avez dit 1888.
C'est
incroyable. Il faut savoir que la maison existe depuis 1883. Vous imaginez?
Et on a quasiment, à quelques trous près, tous les millésimes depuis cette époque.
C'est absolument incroyable. Ça donne quoi comme sensation quand on boit un Armagnac de 1888?
Alors, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça n'arrive pas tous les jours déjà. Et puis, en termes de dégustation et de goût, c'est une plongée dans quelque chose de très ample, de très rond. Et c'est souvent fait dans un cadre de partage.
C'est solennel, quand on goûte un truc pareil, c'est solennel. Pour vous dire combien l'instant est solennel, en nous entendant parler de ça, Jean-Sébastien Petit-Lemanche s'est levé.
Oui, mais c'est surtout est-ce qu'on ose le goûter? Est-ce qu'on se dit pas, bah non, on va encore un peu attendre?
À un moment donné, il faut y aller quand même.
Bah oui, mais justement, alors, pourquoi maintenant?
On a ce devoir de conservation de nos vieux trésors, mais on a aussi énormément de plaisir à les partager.
T'imagines.
J'ai souvent des gens qui viennent me voir, qui me disent « J'ai un 1978 chez moi, de chez vous. » Et je dis « Alors, comment vous l'avez trouvé ?» Et je déplore souvent que les gens me répondent « Oh, j'ai pas osé le toucher. »
Ben oui. »
Nous faisons quand même des produits qui sont faits aussi pour être bu et c'est quand même leur finalité, quoi.
Et puis surtout, c'est une finalité d'abord parce que c'est bon. Et puis surtout, je le redis, c'est la seule manière qu'on a d'avoir un aliment historique. Le vin et les eaux de vie sont les seuls aliments où on goûte l'histoire.
Exactement.
Parce que là, 1888, on goûte ce qui s'est passé en 1887.
C'est
absolument unique, ça.
C'est dingue.
C'est exactement ça. Et je vous invite à visiter.
Voilà.
C'est ce qu'on attendait.
On y arrive.
On n'osait pas.
tout à fait officiellement. Et j'aurais vraiment plaisir à faire le tour des merveilleuses choses que l'on a ici. Et vous verrez que le lieu se prête vraiment. Toutes ces dames jeunes qui vous regardent avec leurs millésimes, c'est quelque chose d'un peu impressionnant. Quoi.
C'est absolument magnifique. Moi, pour terminer, parce qu'il y a un maître de chais qui s'occupe de ces armagnacs.
Bien sûr.
C'est lui qui estime le moment où le produit a atteint son paroxysme, son apogée. Et là, on va le faire rejoindre ce qu'on appelle le paradis en dame Jeanne. Je trouve ça absolument incroyable. Le verbatim est délicieux, je trouve.
Oui. Et c'est un moment clé parce que, voilà, il y a toute une acquisition d'arômes, de couleurs qui se fait, on va dire, à l'âge du bois de l'Armagnac, c'est-à-dire pendant les années dans lesquelles il est contenu par des fûts de chêne. Et il y a effectivement un moment où on décide que le summum est atteint. Et le fait de le retirer et de le mettre sous verre permet de figer cet état au maximum qu'on estime qu'il ait pu atteindre.
Vincent...
Donc, c'est un travail assez précis et
il faut être passionné.
Une longue formation. Voilà, bien sûr.
Je viens de retrouver, juste comme ça, sur revenir sur le côté en bois de l'histoire, vous imaginez qu'en 1888, Nikola Tesla invente le premier moteur à induction et John Dunlop dépose le brevet des pneumatiques.
Pensez-y.
Thomas Edison. À construire la Tour Eiffel.
Exactement. C'est absolument ahurissant d'avoir cette plongée, cette mise en abîme uniquement en ayant un peu de fragrance d'Armagnac qui vous plonge comme ça dans les tréfonds de l'histoire.
Vincent Barthes, mille merci d'être passé par RTL Vous Régale. Je précise que si la part des anges cette année est un peu plus importante que d'habitude, c'est nous, c'est qu'on est passé par là. Voilà. On vous souhaite un bel été. Merci.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci.
À très bientôt. RTL Vous Régale, nous revenons dans un instant. Juste après Francis Cabrel. À l'aube, revenons.
L'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants. Chaque geste est urgent, puisque le jour se lève, la tempête s'achève en murmures brûlants. S'était perdu dans l'obscurité profonde. Là, les étoiles se fondent au jour apparaissant. À leurs pas hésitants, on sent la fin du monde. Encore une seconde, encore un instant. Souffle qu'on entend, ces deux cœurs qui s'arrachent, une main se détache et l'autre la reprend. Aux yeux l'égarement des oiseaux qu'on relâche et qui cherchent où se cache le piège qu'on leur tend. Moindre éloignement, la vie qui les oblige, le vide, le vertige, et faire semblant. Ils se couvrent de serments, se jurent de poursuivre leur course en équilibre sur les pierres des torrents. À l'aube revenant, chacun séparément continuera le rêve. Le seul qui les soulève et les garde vivants, c'est éternellement qu'ils se croyaient soudés. Et même l'éternité, pour eux, c'est pas assez longtemps. Ils étaient deux passants dans l'anonyme foule, dans ce fleuve qui roule, dans la masse des gens. Ils se sont reconnus un peu trop tard peut-être, mais c'est se reconnaître en vrai qui est important. À l'aube revenant.
C'est l'idéal pour aller au marché dans un instant. On est tranquille, on est relax, on se balade avec des produits fantastiques. On est dans le Gers, je vous le rappelle, de l'oie, du canard. On vous en parle parce que Jean-Seb nous y emmène sur le marché. Dans un instant, c'était Francis Cabrel à l'aube revenant sur RTL.
RTL vous régale jusqu'à 12h30.
Colle.
RTL. 11h-12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Le docteur S. Marché de plein vent d'RTL vous régale va nous emmener du côté de Samatan.
Et ça
matin.
Tombe bien, on va sous une halle.
En plus. Une halle baltard ou pas?
Non.
Non.
Dans le Gers, l'oie et le canard, c'est vrai que ça fait partie du paysage. L'implantation là-bas de ces deux animaux remonte à l'Antiquité. Les Romains connaissaient déjà le savoir-faire en matière de foie gras. Preuve que ce produit trouve sa place sur nos tables depuis fort, fort longtemps. Et les produits qu'on trouve sur le marché de Samatan sont absolument exceptionnels. Les foie gras d'oie, de canard, les carcasses, qu'on appelle les demoiselles, les magrets, les aiguillettes, les gésiers. Ces produits sont les meilleurs qu'on puisse imaginer. Et c'est un exemple typique de vacances gourmandes à la campagne qu'on peut faire là-bas. Le marché au gras de Samatan, il a lieu toute l'année, le lundi matin. Il est organisé sur le principe de la vente directe du producteur au consommateur. Ce sont les producteurs qui viennent directement avec leurs animaux, avec leurs produits. Ils sont garantis par un contrôle vétérinaire qui est extrêmement pointu, qui contrôle la qualité de la production, de l'élevage, la fraîcheur, l'hygiène des produits. C'est un des atouts absolument essentiels de ce marché. Alors, le marché au gras, c'est lui, la vente de foie gras, d'oie et de canard entier. Puis vous avez le marché aux carcasses qui propose des produits issus d'oie et de canard entier pour les confits, pour les magrets, pour les écuillettes. En ce moment, et jusqu'au mois d'octobre, le marché se tient tous les lundis. C'est donc aujourd'hui à partir de 10h. Je pense qu'il y a plus grand chose en matière de foie gras. Il doit encore y avoir pas mal de magrets, de carcasses, de gésiers, d'aiguillettes. Et ça, c'est, je peux vous dire que pour y être allé très souvent pendant de longues années, c'est un vrai bonheur de se retrouver là-bas, de voir les plus beaux animaux qui soient, les plus beaux produits qui soient. Et je peux vous assurer que, imaginez, vous, là comme ça, il est 11h54, vous achetez vos magrets là-bas, vous rentrez chez vous, mettez un peu de feu dans la cheminée.
On prend l'armagnac.
Vous allez faire griller. Ben oui, vous, je vous rappelle. Et bon, vous, tant qu'il fait à Paris.
Pas non plus.
Bah, c'est un temps.
Demain, le gars vient en moon boots.
C'est un temps à faire du feu dans la cheminée.
C'est ça.
Voilà.
Dites-moi, ça tombe bien que vous en parliez parce que vous allez vous décarcasser dans quelques instants. Parce qu'on vient de me donner une petite fiche avec l'ingrédient du défi frigo de ce midi.
Alors.
Ah, bah, vous allez moins rigoler.
Non, dites-nous.
Ah, bah, je peux pas maintenant. Oh. On accueillera Chantal d'ici quelques instants qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Vous allez voir. Je me demande si c'est pas un ingrédient inédit.
Ah bon ?
Je pense que c'est une première. Je vous en parle dans quelques minutes. Ça s'appelle du teasing. Et on se retrouve
des
après.
Gencives de porc.
Si, ya.
I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV. Abandon myself daily. I am afraid to let you see. Real me. When it falls, when it falls, we don't have to stay stuck in the weeds. The cards are changing.
Much to Change, extrait de la compilation Les Artistes RTL 2021, 40 tubes réunis sur deux CD. La bande-son idéale de votre été, le défi frigo et l'ingrédient du jour, après ceci.
Jean-Michel Zeka, jusqu'à 12h30.
RTL vous régale. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Dans un instant, le défi frigo d'RTL vous régale et c'est Chantal. Pardon, bonjour Chantal.
Bonjour.
Bienvenue bonjour. Sur RTL. Très vite Chantal, parce que je sais que vous entrez dans l'histoire du défi frigo d'RTL pour proposer un produit complètement inédit. Et ce produit, c'est...
La patate douce.
La patate douce, c'est une grande première. Deux recettes originales dans un instant. Vous écoutez RTL, il est midi. Les infos vous sont présentées tout de suite par Sofia Naclouf.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Et on commence avec Cizik, l'impératrice. La Française Sarah Léonie Cizik a battu la numéro 1 mondiale de judo. Elle assure sa place en finale des moins de 57 kilos. Ce sera donc l'or ou l'argent pour la France. En volée, première victoire pour les Bleus. Ils remportent un match contre la Tunisie 3-0. Prochain affrontement mercredi, ce sera face à l'Argentine. Déception en revanche pour Manon Brunet, battue en demi-finale dans l'épreuve du sabre. L'escrimeuse s'est inclinée 15 à 10 face à la Russe. Malgré tout, elle peut encore viser une médaille de bronze. Matinée compliquée pour les Français dans les autres disciplines. Pas de médaille en canoë, même chose en VTT et en tir. C'est fini aussi pour Enzo Lefort en quart de finale de l'escrime. Le petit-fils de Raymond Poulidor, lui, échoue. Le néerlandais Mathieu Van Der Poel, pourtant favori de l'épreuve de VTT, a abandonné à deux tours de l'arrivée après une chute. 40 millions de primo-vaccinés, c'est fait. Emmanuel Macron a lui-même annoncé le franchissement du cap symbolique dans un tweet. Il appelle à continuer tous ensemble pour vaincre le virus. Dans le même temps, la quatrième vague de Covid-19 s'étend sur la France. Toutes les régions métropolitaines sont désormais au-dessus du seuil d'alerte. Il est fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. La région du centre Val-de-Loire, qui était la dernière exception, dépasse désormais ce seuil. Gabriel Attal salue un consensus large autour du texte sur le pass sanitaire. C'était ce matin sur RTL. Le projet de loi a été adopté cette nuit par les sénateurs et les députés. Des modifications sont quand même à noter. Le pass ne sera demandé qu'à partir du 30 septembre aux mineurs. Pas de licenciement pour les employés qui refusent la vaccination obligatoire. Leur salaire pourra être suspendu. Alors, suspendre plutôt que licencier les salariés non vaccinés, est-ce suffisant? C'est la question du jour. Vous pouvez y répondre sur le site internet de RTL. Vers un retour à la normale dans les gares, la SNCF prévoit un rétablissement total du trafic au lendemain d'un accident à Massy. Un ingénieur est mort, enseveli après un éboulement sur un chantier. C'était il y a 5 ans. Le père Hamel était assassiné par un terroriste dans son église. Des commémorations se tiennent aujourd'hui et demain à Saint-Étienne-du-Rouvray, en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En Tunisie, des bouteilles et des pierres volent devant le Parlement. Des partisans du président Saïed bloquent l'entrée de la Chambre au soutien du principal parti parlementaire. Ils dénoncent un coup d'État. Le président a décidé de geler les travaux du Parlement pour 30 jours. Les îles Marquises, bientôt candidates au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce que souhaite le chef de l'État, qui l'a exprimé pendant son déplacement. C'est la première visite d'un président de la République dans cet archipel de la Polynésie française. L'un des fondateurs du Minitel est mort, Gérard Théry, polytechnicien avec 88 ans. Le Minitel, je l'ai considéré comme une grande chose, mais même s'il s'est terminé par une impasse, estimait-il encore il y a quelques années. Et on regarde rapidement la météo. Un temps très instable cet après-midi sur la moitié nord. Quelques orages pour la Normandie, l'Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne. Même chose en Île-de-France. Ce sera plus calme sur la façade ouest, avec de belles éclaircies et du soleil qui sera cette fois bien présent de la vallée du Rhône à la Méditerranée. Les températures fraîches presque partout cet après-midi. Il fera 22 à Lille, 23 à La Rochelle, 24 à Nancy. Ce sera mieux dans le sud-est, 28 à Nice, 32 à Marseille et à Ajaccio. Et on termine par les courses. Elles se tiennent à Dieppe cet après-midi, départ 13h50. Les pronostics de Jordan Philippi, il vous conseille de jouer le 3, le 10, le 8, l'As, le 13, le 5 et sa dernière minute, c'est le 3, Jackson. Midi 4 sur RTL, on vous retrouve, toute l'équipe de RTL vous régale.
Merci Sofiane, restez, on fait de la patate douce.
Avec plaisir.
Ça va vous plaire, vous allez voir, deux recettes originales dans un instant.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Car Chantal est au cœur de ce défi frigo en ce début de semaine. Chantal qui nous appelle de Saint-Soulan, c'est ça?
Saint-Soulan, c'est sur les coteaux du Gers, dans le canton de Saint-Matan. Où...
Mais on y est, ah, bah oui. Mais c'est génial.
Une belle coïncidence.
Ah bah alors, est-ce que vous allez de temps en temps sur le marché de Saint-Matan, justement, d'en parler avec Jean-Sébastien il y a quelques minutes?
Oui, bien sûr. sûr, j'y vais.
Évidemment.
Est-ce que ce qu'il a raconté est rigoureusement exact?
Rigoureusement.
Ah bah voilà, c'est important d'authentifier le propos de temps en temps quand même.
Bon, en plus du marché au gras, il y a aussi le marché de plein vent qui est énorme.
Et on n'en a pas parlé.
Mais non, mais il est autour.
Il est autour. Justement, faites bien de rétablir la vérité. Voilà. Chantal, de la patate douce. Je le dis, je le répète, je pense qu'on n'avait jamais joué avec ça, c'est un inédit. Qu'est-ce qu'on fait avec de la patate douce?
Pourtant, c'est bon.
C'est vrai, vous faites quoi, vous, avec ça?
Non. Oh, je fais beaucoup de choses. Je fais un parmentier de confit de canard
avec
de
la patate douce.
C'est pas mal.
Je fais de la salade de patate douce avec du hareng fumé.
Ah ouais?
Je fais du gratin de patates douces avec un petit peu de pommes de terre et puis du lait de coco, du gingembre et du curry.
Ah, vous mélangez pommes de terre et patates douces?
Oui, c'est
oui,
très bon.
Je mets un peu de pommes de terre pour donner un peu de consistance.
Ah d'accord. Oui, c'est vrai que la patate douce est plus moelleuse.
Mais vous adorez cuisiner?
Ah, j'adore cuisiner, oui.
Bah, c'est-à-dire que quand on écoute RTL Vaurégal, généralement...
On peut adorer manger, mais pas forcément cuisiner.
C'est vrai aussi, mais c'est qu'on touche un petit peu en cuisine, surtout quand on est l'auteur du défi frigo. Vous attendez deux recettes originales, ils ne vont pas vous décevoir. Ils sont en forme olympique.
Bon, j'attends ça.
Cette circonstance. Vous voulez démarrer avec qui, Chantal?
Avec Louise.
Louise, à vous l'honneur.
Alors, Chantal.
1 minute 30, top chrono.
Moi, je vais vous proposer quelque chose de très, très simple. Ce sont des patates douces rôties au miel. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime la texture de la patate douce. Donc, vous allez préchauffer votre four à 190 degrés, éplucher vos patates douces, les couper en rondelles. Et vous allez prendre tout simplement un saladier et vous allez mélanger de l'huile d'olive, de la moutarde, du miel et du romarin si vous avez. Vous allez tout simplement plonger vos patates douces dans ce saladier, bien les enrober de cette petite préparation et mettre ça sur une plaque au four. Et vous allez avoir déjà, c'est joli, la couleur sera bien prononcée. Vous pouvez même remettre un petit peu de romarin dessus pour avoir le contraste un peu jaune-orangé vert. Et vous allez avoir le croustillant de la patate douce au-dessus, parce que ce sera bien rôti au miel, et le moelleux à l'intérieur.
C'est tout?
Oui, c'est tout.
35 secondes. Recette en 35 secondes.
Oui,
Non, ça va bien. Ça va bien, Louis. C'est audacieux.
Bah, je sais pas, j'ai envie de manger ça ce midi, tout simplement.
Patate douce au miel.
Oui, mais c'est joli. Ça épate les invités.
Bah oui, j'espère. Je sais pas si ça a épaté Chantal, on va en parler dans un instant. Je me demande si la recette de Jean-Sébastien sera plus élaborée ou pas. Vous nous proposez quoi, Jean-Seb?
Un dessert.
Pas idiot. Pas idiot. C'est parti, une 30.
Vous allez éplucher vos patates douces et les couper en cubes pour les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 45 minutes. Vous les égouttez, vous les réservez. Pendant ce temps, vous battez les œufs, le sucre, la vanille et un peu de cannelle, si vous aimez la cannelle. Vous ajoutez du lait, vous mixez ça dans un grand mixeur où vous mettez la chair de la patate douce et puis vous ajoutez le mélange œuf, sucre, vanille avec le lait. Vous mélangez tout ça, vous ajoutez un peu de beurre que vous aurez fait fondre. Vous mettez tout ça dans un moule beurré, vous enfournez 45 minutes à 175 degrés, vous laissez refroidir, vous démoulez, vous allez badigeonner cela avec un petit sirop de sucre vanillé, vous mettez au frigo pour faire le glaçage, vous mettez au frigo au moins 4 heures et vous avez un dessert absolument sublime. C'est un dessert traditionnel.
Qu'on appelle comment ?
Un gâteau de patates douces.
Tout simplement.
Tout simplement, c'est un dessert traditionnel de La Réunion que j'ai appris à faire là-bas lorsque j'ai vécu quelques mois. Et c'est fin, délicieux. Et puis juste avant de le servir, vous pouvez mettre un petit peu de rhum ambré, comme ça.
Ben tiens.
Quelques petites cuillères de rhum ou quelques cuillères d'armagnac.
On n'a pas appris à faire que le gâteau, je vois.
Ah bien, pourquoi
bon,
pas
Chantal.
En fait, oui. Ça donne une texture absolument géniale qui est.
Dis donc, il y a beaucoup de temps là.
À l'idée. Ben non, c'est.
Non, mais c'est terminé.
C'est un peu. Bah,
c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas des recettes en 28 secondes. C'est un petit peu ça le problème. Oh, genre. Alors, Chantal, est-ce que vous allez opter pour, j'ose le dire, la recette un rien minimaliste de Louise?
Allez-y, influencez Chantal.
Patate douce au miel, merci, au revoir.
Rôti au miel.
Ciao les frères.
Mais attends, vous venez de me dire, vous avez fait des pâtes vendredi soir, vous n'êtes pas non plus...
Ça ne concernait que nous. Face à Louise, ce matin, un gâteau de patate douce réunionnais.
Bon alors, je connais le gâteau de patate douce.
J'y crois
que
pas.
Moi-même, j'ai appris à cuisiner en Nouvelle-Calédonie.
Génial.
Ah bon, ben voilà. Ah, ben oui.
Et on y rajoutait d'ailleurs un peu de lait de coco dedans.
On peut aussi, oui.
Donc elle va nous dire, je connais le gâteau, donc je vais choisir la recette de Louise.
Voilà, exactement.
J'y crois pas. Je n'y crois pas.
Mais si, les choses simples sont les meilleures.
Ce qui se passe à midi 10.
C'est un bon accompagnement.
En ce lundi sur RTL est immense. L'escroquerie de ce début de semaine.
Arrêtez avec ça.
Non mais genre, elle arrive et nous dit quoi? Qu'est-ce que je vous fais avec vos patates douces? On va mettre un peu de miel dessus, vous me les mettez au four et la messe est dite. Ciao.
Bah oui.
Merci, au revoir, bon week-end. C'est pas possible.
Mais arrêtez.
Et vous gagnez avec ça.
Bah oui, comme non, avec la courgette la dernière fois.
Cela dit, je connais des gens qui ont remporté le défi frigo avec une quiche au melon. Donc forcément, l'égalité est rétablie.
De toute manière, comme je vais vous la faire pour partir à Chaumont-sur-Loire.
Oui, car nous serons à Chaumont-sur-Loire cette semaine.
Oui.
Nous serons là jeudi en direct. Oui. Vainqueur, Louise Petit-Renaud.
Merci Chantal.
J'ai envie de dire contre toute attente. Chantal, vous avez bien fait de nous appeler. Vous savez pourquoi?
Eh ben, je suis très heureuse de vous avoir eu.
Mais vous savez pourquoi? Parce que vous venez de gagner un guide du routard aux éditions Hachette, guide de votre choix. Vous venez de gagner une montre RTL et puis surtout, nous allons vous permettre de participer au tirage au sort qui aura lieu vendredi pour tenter de gagner un week-end au magnifique hôtel Golf et Spa de la Bretèche. C'est une maison relais château, c'est un hôtel 5 étoiles. C'est au cœur de 200 hectares, le domaine de la Bretèche à Missillac, entre Nantes et Vannes. C'est pas loin des plages du Morbihan. Je sais pas si vous connaissez l'endroit.
Non, je connais pas.
Vous serez accueillis là-bas.
On est allé en Bretagne plus haut, mais en Vendée, non, on n'y est pas allé.
On vous accueillera là-bas le temps d'un repas en plus au restaurant gastronomique Le Montaigu où le chef Jean-Pierre Honorin vous proposera une cuisine simple, contemporaine avec une prédilection pour les produits locaux ou ceux du potager du domaine. Allez voir ce qu'on vous réserve sur bretèche.com, S-C-H-E à la fin de Bretèche. Je vous embrasse, peut-être à vendredi.
Très bien, à vendredi.
Merci Chantal.
Continuez de nous régaler.
On va tenter de le faire, c'est sympa d'être avec nous en tout cas. Très belle journée à vous, à bientôt.
Merci.
Je rappelle que pour vous inscrire au défi frigo, vous envoyez Régal par SMS au 64 900. Dans un instant, on vous dit ce qu'il faut absolument rapporter du Gers. Une victoire
il y en a des choses,
sur une patate douce.
Oh,
au lieu.
Vous n'allez pas commencer. Hein.
Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était un lundi 26 juillet. Now this might be a mistake that I'm calling you the slate. But these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool, I still be. Didn't notice what I lost until all the lights were off. And not knowing what you're up to torture me. Now this might be a mistake. We're broken in so many ways. But I piece us back together slowly. Ooh, maybe I'm just a fool. Still belong with you, anywhere you, anywhere you are.
mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough.
Ah, une voix, mais c'est énorme. Fauzia, John Legend sur Mindfield. C'est un des plus gros succès internationaux de ces derniers mois. Fauzia qui a été enregistré donc en duo avec cette voix soul qu'on adore, celle de John Legend sur RTL.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30.
RTL vous régale. 11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Que rapporte-t-on du Gers, Jean-Sébastien et Louise? Est-ce que vous avez fait la liste des courses?
Mais il y a beaucoup de choses. On peut rapporter du vin, par exemple.
Par exemple.
Parce qu'on a parlé d'Armagnac, mais enfin, il faut savoir que la vigne a été implantée dans cette région à l'époque gallo-romaine, comme beaucoup, et s'est ensuite développée pendant tout le Moyen-Âge. Le Gers est le premier département producteur de vin de pays. Le vin de pays du Gers est délimité géographiquement par les frontières administratives du département, évidemment. Et l'appellation compte essentiellement du gros mancin, de l'uniblanc, du colombard en ce qui concerne les cépages. Tous ces vins sont caractérisés par une grande fraîcheur aromatique, par une intensité de fruits, de feuilles, de fleurs blanches. C'est extrêmement agréable. C'est des vins de pays. Ce ne sont pas des vins d'appellation, mais ça fait partie de ces petites pépites qu'on trouve.
Passion pour les vins de pays, parce que quand c'est bien fait, c'est fantastique. Voilà. On a beaucoup parlé de canard, c'est vrai, mais il n'y a pas que du canard dans le Gers, Louise.
Non, il y a de la charcuterie aussi. Donc vous avez le porc noir gascon, avec lequel on fait du jambon noir. C'est un jambon qui est fondant en bouche, qui a des saveurs assez puissantes. Et le porc noir est dans le sud-ouest depuis plus de 1000 ans. Il se nourrit de céréales, de glands, de marrons, de châtaignes. C'est ce qui fait vraiment la qualité de sa viande. C'est une race très ancienne qui date du temps préhistorique. C'est considéré comme la descendante du type ibérique.
Voilà, je voulais qu'on reparle quand même un peu de foie gras parce que forcément c'est quand même l'emblème de la région. Et on va en parler avec un producteur. Pierre-Marie, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue ça sur va. RTL, ça va bien? On est ravis de vous recevoir.
Oui, ça va.
Vous êtes le gérant de la maison Ramageau.
Exactement.
Vous faites du foie gras depuis pas mal de temps aussi. Vous êtes une trentaine de kilomètres de Condon, c'est ça?
Oui, c'est ça. On est juste à côté de la capitale de l'Armagnac, et Oz. On est à 10 kilomètres des Oz.
Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Qu'est-ce qui fait que votre foie gras est différent des autres?
Alors différent, on ne va pas toujours dire différent, mais déjà on fait tout pour qu'il soit bon. Mmh. Et on essaie de respecter un peu la vie du produit. Ça c'est important quand même, parce qu'on voit beaucoup d'évolutions où on industrialise beaucoup de choses. Nous, on a fait un choix, c'est on va prendre du temps. On va prendre du temps à l'élevage, où on va élever au moins 90 jours et un peu plus nos animaux en plein air. Et puis après, on va prendre du temps aussi pour l'engraissement. L'engraissement, c'est le gavage.
Voilà.
Et voilà. Et après, pour la cuisine, eh bien, on garde les recettes du grand-père et du père à qui on a succédé et qui ont plus de 50 ans maintenant. Et on reste toujours sur le même type-là de recettes traditionnelles. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, quand on fait un fond de sauce pour un plat cuisiné, du type magret à la sauce, eh bien, la sauce, on va la faire nous-mêmes avec des légumes frais, les carcasses de canard, les intérieurs du cou, les barres de cou et tout ça. Et on fait mijoter tout ça toute une nuit dans un bouillon et on le filtre le lendemain matin. Voilà, on fait durer la chose pour que c'est du goût.
C'est important. Pierre-Marie, dans le débat sans fin sur le foie gras, etc., et on ne va pas l'ouvrir ici, je trouve important que vous parliez du respect concernant les bonnes pratiques d'élevage, la bien-traitance animale. J'en parle parce que c'est capital, parce que chez vous, on l'a tellement compris que vous avez créé une espèce de couloir de visite qui est intégré à la production, afin que les gens puissent venir voir comment vous travaillez.
Alors, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on a créé vraiment une visite qui peut se faire accompagnée lorsqu'on a le temps de les accompagner, mais après qui peut se faire toute seule de toute la ferme, de toute l'exploitation, et on peut aller voir les animaux quand ils sont en train de grandir. On peut venir nous voir lorsqu'on gave, parce qu'on l'explique, parce que je crois que la vraie problématique, c'est de ne pas expliquer ce que l'on fait. Donc voilà, donc on reçoit les gens chez nous, dans la salle de gavage, on va leur expliquer en détail comment ça se passe. On répond aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, parce qu'en fait, souvent, c'est par méconnaissance que les gens ont peur de cette partie-là.
Qu'est-ce que les gens ne connaissent pas, justement? Pourquoi est-ce qu'on a des a priori là-dessus?
En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on a optimisé une notion naturelle qu'ont les animaux, alors c'est les oies et les canards, c'est de s'auto-gaver lors des phases migratoires et de stocker. En fait, dans le foie, ils stockent des réserves. Mmh. Et pendant leur migration, ils vont taper dans la réserve. Et en fait, nous, c'est ce qu'on fait. On pousse un peu à l'extrême, mais on pousse ça. Alors, il faut savoir qu'un animal qui sort du gavage, on le remet dans le champ dehors, en plein air. Au bout de deux jours, il n'y a plus de foie gras. Il a tout réassimilé. Le foie revient à sa taille normale.
Mais voilà, c'est des précisions qui sont quand même capitales. C'est extrêmement important d'expliquer ça aujourd'hui.
Ah, c'est même essentiel. Je pense que nous, dans notre communication, si on le fait depuis 50 ans de recevoir du monde, c'est qu'on sait que voilà, il faut être transparent, il ne faut rien cacher. Parce que si on cache, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et donc là-dessus, et ça va jusqu'à la partie fabrication. C'est-à-dire qu'on a fait un couloir de visite et les gens viennent n'importe quand nous voir travailler. Donc vous voyez, ils peuvent arriver n'importe quand. Donc on n'a rien à cacher. D'ailleurs même, on s'est habitué parce qu'on a des gens qui travaillent derrière la vitre, hein, y a des humains.
Mais même au-delà de ça, Pierre-Marie, il faut dire que pour bénéficier de l'IGP GERS, y a des contrôles extrêmement sévères qui sont effectués par les services vétérinaires.
Alors on a double contrôle. C'est-à-dire qu'on a les contrôles qui sont faits par les services vétérinaires. C'est-à-dire que notre partie qu'on va abattre, on est contrôlé. La partie qu'on va découper le canard, on est contrôlé. La partie où on va transformer le canard, on est contrôlé aussi. Et en même temps, on a un contrôle IGP qui vient nous contrôler en disant « Attention, on a un super cahier des charges, les gars. Si vous ne le respectez pas, vous n'aurez plus le droit de le faire. »
Voilà. Et si au-delà de tout ça, on n'est toujours pas d'accord, on n'est pas obligé de manger du foie gras.
Exactement. Alors, c'est surtout ça. On n'impose personne de manger du foie gras. Il s'avère que quand même, à chaque fois qu'une petite campagne de dénigrement, les gens consomment un peu plus. Donc on se dit c'est peut-être pour nous soutenir. Il y a un effet un peu boomerang sur le sujet. Et puis que si les gens comprennent un peu comment on travaille, je pense et les doutes sautent et on ne peut qu'avancer. C'est vrai que c'est important de le expliquer comme je viens de le faire à l'instant, je crois que c'est super important.
Je pensais que c'était capital. Est-ce qu'on peut venir vous visiter en ce moment, justement, pendant le mois de juillet ?
Oui, alors justement, pendant l'été, on a doublé les visites accompagnées. Donc, on est là tous les mercredis soir à 17h, on fait une visite guidée. Mais également, ce qu'on fait, puisqu'on peut manger aussi sur la ferme, donc on fait visite le matin, le mercredi, par exemple, le mercredi prochain, le 28. On visite le matin et à midi, on se met à table avec un buffet à base de nos produits pour au moins découvrir ce que l'on fait en termes de fabrication.
Pierre-Marie, si on se met à table avec Louise et Jean-Seb ce midi chez vous, vous nous servez quoi ?
Alors moi, déjà, nous, notre dada, c'est le foie frais. Donc c'est sûr qu'un petit foie frais avec quelques petites pommes caramélisées, avec un peu de côte gascogne, vous avez parlé un peu de côte gascogne, ou le floc, où on peut utiliser le floc. Voilà, le floc. Aussi. Donc on a presque le début de l'entrée du repas, melon blanc et foie frais à la pomme, ça c'est un délice. Et après on va aller sur un magret qu'on peut se faire soit à la plancha ou soit au feu de bois, hein. Donc c'est très sympa. On peut reprendre les patates douces aussi, parce que nous...
Non.
Je voulais frère Otis.
On avait dit qu'on arrêterait avec la patate douce.
Mais après, ce qu'on sait faire, parce que ça m'a fait rigoler votre challenge patate douce, mais on arrive à faire aussi de la patate douce, mais cuit dans la graisse de canard.
Ah, ça donne goût.
Voilà. Et donc ça, c'est sympa aussi.
Vous y mettez du miel ou pas ?
Je n'ai pas le miel, je n'en trouvais pas dans le miroir.
Ce qui est bien avec la graisse de canard, c'est que ça ne sent plus la patate douce. Et ça, c'est bien.
Voilà, exactement. Et après un dessert, on va finir par le dessert. On va attaquer le croustade.
Ah, c'est trop bon, ça.
Allons-y, on attaque. Description.
Mais vous la faites ?
Ah non, on ne la fait pas. C'est un vrai métier. Chacun son boulot. Moi, j'en ai assez pour faire du foie gras.
Non, mais vite fait, c'est quoi la croustade ?
Alors là, du coup, ça, c'est des fines pâtes feuilletées, là, qui sont retirées sur une table. Mmh. Et on en met 50, 50 60, 80, 80 fines couches l'une sur l'autre.
On fait des tours.
À l'intérieur, on y met de la pomme, avec un peu d'aromatisation d'Armagnac.
Il y a de la pomme, mais pas que.
Voilà, la pomme, mais pas que.
Quel bonheur de vous écouter. Pierre-Marie, gérant de la maison Ramageau, c'est à Demu, à une trentaine de kilomètres de Condon. C'est ouvert au mois de juillet, c'est ouvert au mois d'août, et on visite, et on prouve que vous faites les choses comme il faut les faire.
Exactement.
Merci d'être venu dans RTL Vous Régale. On vous souhaite un très bel été et continuez à nous régaler.
Merci à vous, à bientôt.
Dans un instant, le petit pas de côté de Jean-Sébastien Petit-Demange, dans le département d'à côté.
Voilà.
Tout à côté du Gers.
Tarn-et-Garonne.
À tout de suite.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zéclair.
11h, 12h30. RTL vous régale.
Il l'a annoncé, il nous emmène pour son petit pas de côté ce matin dans le Tarn-et-Garonne.
Et du côté de Montauban. Alors même si on ne devrait jamais quitter Montauban, comme il est dit dans les Tontons Flingueurs, Montauban c'est l'autre ville rose qui a été fondée par le comte de Toulouse. Rien d'étonnant. Nous sommes en 1144. Montauban est la première bastide du Midi. Première ville nouvelle sur plan régulier avec ses angles, ses rues angle droit, sa place centrale. La guerre de Cent Ans, les guerres de religion n'ont pas épargné cette cité. Il n'empêche qu'en se baladant, on est vraiment surpris par l'harmonie des façades. Avec les doubles galeries, l'utilisation de la brique qui flamboie au soleil, les portiques d'angle qui surgissent un peu partout. Montauban, c'est aussi la ville natale de Jean-Auguste Dominique Ingres. Il laissa à sa ville plus de 4000 dessins d'étoiles innombrables et une collection personnelle d'œuvres d'art. Fallait au moins donner son nom au musée des Beaux-Arts de Montauban. Ingres était aussi violoniste. Et on apprend dans un « Le saviez-vous » du Guide du Routard qu'il fut pendant un temps le second violon dans l'orchestre du Capitole de Toulouse.
C'est là l'expression.
Violon d'Ingres, voilà. Absolument. Alors quand on va vers l'est, on découvre les sublimes gorges de l'Aveyron. Ici, l'eau a taraudé dans le calcaire des gorges profondes, livrant des paysages spectaculaires, escarpés qui ne laissent pas indifférents. Un peu comme le village de Bruniquel, vénérable commune de 800 habitants accrochée à une colline. Ancienne place forte protestante posée à 100 mètres de haut et qui veille sur les gorges. L'image pourra paraître familière à ceux qui se souviennent du Vieux Fusil, le film de Philippe de Broca avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Le film est totalement incroyable, on se laisse emporter par la poésie du lieu et le panorama est plus qu'étonnant. Et ce qu'on découvre en arrivant, c'est qu'en fait, il y a deux châteaux dans cette forteresse. Le premier date du 12e, le second du 15e. Deux protections en fait, c'est plus sûr. Et les deux injections de vaccin, c'est indispensable.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
C'est point.
11h-12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
On était au pied du foie gras ce matin dans le Gers. J'espère que vous avez passé une aussi bonne fin de matinée que nous. On sera de retour demain dès 11h avec Louise et Jean-Sébastien. On va où demain les amis?
Dans la Côte d'Opale.
Côte d'Opale?
Côte d'Opale.
Une promo? On a fait le Gers pour vous emmener dans le Gers.
Opale, opale, opale.
Merci Louise, à demain 11h. Vous écoutez RTL, il est